C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi. Et bonsoir, vous êtes bien sur les Canu Info de mercredi, il est 19h02, on est pile à l'heure, en courant mais à l'heure, et on va vous parler ce soir de quelques brèves. D'abord, on a une petite série de brèves à vous annoncer. Ensuite, il y aura une interview qu'on aurait bien voulu vous diffuser la semaine dernière, mais voilà, qu'on a gardé au chaud pour cette semaine.
On m'entend ou on m'entend pas?
Ah oui, ok.
Et pourquoi la semaine dernière? Parce que les personnels des crèches étaient en grève le mardi, la veille de notre Canu Info. On a fait l'interview le mercredi, mais après, on a eu des merdes techniques. Bref, vous allez tout savoir sur la saloperie de réforme des crèches en prévision, avec un petit peu de retard par rapport aux mobilisations.
Voilà, puisque c'était donc l'interview d'une personne personnelle de la petite enfance, ancienne personnelle de la petite enfance. Ensuite, on parlera du projet de loi sur le climat et résilience. Et de la...
On aura un petit truc sur la multiplication des actions anti-chasse.
Et puis, on reviendra sur la situation des migrants dans les îles Canaries qui font, par exemple, une grève de la faim, et puis où il y a des cas d'automutilation aussi.
Sur la mobilisation des toffeurs et toffeuses.
Et puis, on finira en parlant de Total, puisqu'il n'est pas question là-bas que les actionnaires pâtissent de la crise.
Radio Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Alors, on va commencer en vous parlant d'un rappeur catalan, Pablo Hasél, qui, jeudi 28 janvier, a été condamné à 9 mois ferme et 30 000 euros d'amende pour un délit d'apologie du terrorisme et d'injure et calomnie envers la monarchie et les forces de sécurité de l'État. Alors, tout ça, c'est dans ses chansons et puis dans des tweets aussi. Les autorités lui ont laissé 10 jours pour se rendre de lui-même et être mis en cellule, tous ses recours étant épuisés. Il avait jusqu'à dimanche, donc ce dimanche 7 février, dimanche dernier, pour se livrer. Alors, il a déjà été jugé par des charges similaires en 2011, 2014 et 2017. Et il est donc Pablo Hasél, puni pour des tweets et deux chansons qui dénoncent la corruption du roi d'Espagne, Juan Carlos. Alors, en Espagne, l'Espagne, c'est le seul pays de l'Union européenne où tous les juges du tribunal suprême et de l'audience nationale sont directement nommés par le gouvernement. Et l'Espagne, donc, en Espagne, s'en prendra la monarchie, c'est encore passible d'emprisonnement. Alors, Pablo Hasél a annoncé qu'il ne se rendrait pas volontairement en prison et ne demanderait pas de grâce. S'il est détenu, il sera le premier rappeur emprisonné pour ses paroles en Europe. Alors, contre cette répression et pour la liberté d'expression, des actions et des manifestations étaient organisées en Catalogne, avec notamment quelques affrontements à Barcelone. Depuis le verdict final, de nombreux collectifs antifascistes et anticapitalistes ont appelé à la mobilisation pour empêcher son entrée en prison. Alors, comme c'est une loi espagnole qui fait tout de même un peu tache, et au vu des mobilisations dans la rue et sur les réseaux sociaux dans le monde de la culture, l'exécutif espagnol a annoncé lundi une réforme visant à modifier le code pénal afin que les infractions relatives à la liberté d'expression ne soient pas passibles d'une peine de prison. Le gouvernement n'a pas encore précisé les modalités de cette réforme, si ce n'est qu'elle devrait comprendre, je cite, la requalification de l'acte de sédition, une mesure dont devraient par ailleurs bénéficier les principales figures de l'indépendance, de l'indépendantisme catalan, à savoir la grâce éventuelle des dirigeants catalans condamnés après la tentative de sécession en 2017. Canu Info.
Du mercredi.
Et on poursuit avec une autre brève sur cette liberté d'expression bien malmenée en Europe, puisque en Hongrie, Club Radio ou Club Radio, je ne sais pas comment on dit, et j'aurais pu écouter un peu cette Club Radio avant de faire cette brève, je m'en rends compte maintenant, est contrainte de cesser d'émettre sur la bande FM qui lui est attribuée à Budapest et elle basculera sur Internet. Alors c'était une station critique, c'est toujours une station critique du pouvoir qui s'est fait épingler par le CSA hongrois, résolument proche du gouvernement, pour deux infractions assez mineures hein, sur la loi sur les médias, donc ils n'ont pas rendu leur dossier à temps. En septembre 2020, le CSA local, donc résolument favorable au pouvoir, refusait de prolonger la licence de diffusion de la dernière grande antenne indépendante de Hongrie, arrivant à expiration le 14 février à minuit. Donc pour motif de retard de livraison de documents administratifs constituant une double infraction à la loi sur les médias. Alors mardi 9 février, le tribunal de Budapest rejetait le recours de la station qui souhaitait poursuivre le combat judiciaire, puisque, je cite, d'autres antennes avaient commis ce genre d'erreur et n'ont pas été pénalisées au vu de leur fréquence et ont vu même leur fréquence renouvelée. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est la première radio indépendante du pays qui a été fondée en 1990 et c'est une antenne participative, assez critique vis-à-vis du gouvernement de Viktor Orban. Et le directeur de la station, András Arató, dénonce, je cite, « une décision politique honteuse et lâche ». Depuis 10 ans, Club Radio n'en est pas à ses premiers faits d'armes avec le gouvernement, puisque toutes les fréquences que Club Radio émettait en dehors de Budapest, donc dans les provinces, ont été supprimées et elle a dû payer un nombre d'amendes incalculables pour tout un tas de motifs mineurs. Alors, en Hongrie, la situation des médias, elle n'est pas florissante, c'est vrai. 80% des médias sont aujourd'hui entre les mains du pouvoir. Viktor Orban avait d'abord mis au pas l'audiovisuel public, qui s'était transformé en machine de propagande. Il a ensuite fait racheter les privés par ses amis oligarques. Donc bon, ça paraît être un détail, mais c'est sûr que s'ils sont de son avis, ça va tout de suite mieux. Alors des centaines du coup de radios, de journaux, de sites en ligne et de chaînes de télé ont disparu. Certaines ont changé de propriétaire et de profil politique au moment du passage de Viktor Orban au pouvoir. Alors justement, quand il a pris le pouvoir en 2010, la Hongrie était sur le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, était au 23e rang sur 180, et aujourd'hui elle est 89e. Donc on a une illustration avec cette radio.
Canu Info.
Et alors, pour terminer cette petite série de brèves, on en a beaucoup parlé, et même parfois ici, de la lenteur du processus vaccinal, du problème de production insuffisante et autres entourloupes pour masquer les insuffisances sur le vaccin du Covid-19. Alors pendant ce temps-là, une petite crème bourgeoise se fait tranquillement injecter son passe-droit. Selon France Info, l'hôpital américain de Paris aurait procédé à la vaccination de membres de ce qu'elle appelle son Board of Governors. C'est une expression un peu pompeuse qui désigne en fait le conseil d'administration de l'hôpital américain de Paris, composé de diplomates, banquiers, anciens ministres ou dirigeants de grandes multinationales. La direction se défend en affirmant que c'était des personnalités éligibles à la vaccination, alors qu'en fait, nombre d'entre elles sont en dessous de l'âge prioritaire pour la vaccination. Et par exemple, on a Arnaud Lagardère, millionnaire de 59 ans, donc bien en dessous de 75, directeur du groupe Lagardère, qui détient de nombreux médias. Et avec d'autres, hein, il fait partie de cette liste VIP. Alors d'autres sources auraient aussi rapporté qu'en plus de ces membres du conseil d'administration, d'importants donateurs et membres de leur famille auraient été invités à être vaccinés avec les premières doses des vaccins Pfizer fournis par l'ARS en Île-de-France. Alors c'était des doses qui étaient censées être destinées au personnel soignant, âgés de 50 ans et plus, ou présentant des comorbidités. Alors, encore plus scandaleux, ces vaccinations ont débuté dès le 14 janvier, soit 4 jours avant le lancement officiel de la campagne de vaccination pour les plus de 75 ans et les personnes atteintes de pathologies. Voilà, donc les vaccins pour tous, d'accord, mais pour les riches d'abord.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et la semaine dernière, les personnels des crèches étaient dans la rue pour protester contre la réforme Taquet, du nom du secrétaire d'État à la petite enfance, je crois, ou quelque chose comme ça. En tout cas, un bonhomme qui trouve qu'il n'y a pas assez de place en crèche en France, et là-dessus, beaucoup de gens peuvent partager son constat, mais qui trouve que la meilleure solution pour ça, eh ben, ma foi, c'est d'autoriser les crèches à avoir moins de personnel pour plus d'enfants, et aussi de pouvoir avoir moins de mètres carrés pour plus d'enfants, c'est-à-dire tasser les enfants dans des placards avec une personne qui pourra courir entre les couches, les langes, la bouffe, le machin, le truc, recevoir les parents et soigner les petits bobos. En tout cas, on a rencontré une ex-auxiliaire de puériculture qui a démissionné parce que déjà le boulot devenait déjà assez dingue comme ça avant cette réforme, mais qui est toujours assez au courant pour nous expliquer les tenants et les aboutissants.
Axel, t'es éducatrice de jeunes enfants, mais t'as arrêté de bosser, ce qui ne t'empêche pas d'avoir une petite idée de ce qui se passe en ce moment du côté des crèches, et par exemple avec cette fameuse réforme Taquet qui fait que hier les personnels des crèches étaient assez massivement en grève. Est-ce que tu peux nous dire déjà un peu ce qu'il y a dans la réforme et pourquoi c'est pourri ?
Il y a des documents qui ont été publiés le 15 décembre qui nous disent en gros... ce qu'il y a dans la réforme, c'est qu'on pourra accueillir plus d'enfants en surnombre, avec le même nombre de professionnels sur le terrain, bien sûr. Le taux d'encadrement change, c'est-à-dire qu'il y aura la possibilité d'un taux d'encadrement unique de un professionnel, moi je dis une, parce qu'il y a plus de femmes dans la petite enfance, une professionnelle pour 6 enfants, alors qu'avant c'était une pour 5 qui ne marche pas et une pour 8 qui marche, qui était déjà un taux complètement insuffisant et qui ne garantissait pas une qualité d'accueil des enfants. Essaye d'être un adulte avec 8 bébés qui ont tous faim en même temps, ou qui ont besoin d'un câlin, ou d'être rassurés, ou juste d'avoir un adulte posé avec eux, disponible et attentif. En fait, ça n'existe pas, parce que tu dois toujours en coucher un, enlever un, changer une couche. Et donc, c'est déjà un taux qui est insuffisant et contre lequel nous, on se battait. Il y a aussi des choses sur le ratio des diplômés et des non-diplômés. Donc qui est de 40% de non-diplômés et de 60% de diplômés. C'était déjà un peu ça, mais là c'est calculé sur une moyenne annuelle, donc ça veut dire qu'il y aura de plus en plus d'enfants qui seront accueillis par des professionnels non qualifiés de plus en plus souvent. Moins de JE sur le terrain. Les EJE, c'est quand même les professionnels. Donc, les éducatrices de jeunes enfants, c'est quand même les professionnels qui sont le plus diplômés avec un bac plus 3 et qui ont une connaissance approfondie du développement de l'enfant. Et puis, il y a un truc très important aussi dans ces ordonnances, qui sont la préparation d'un décret qui arrive bientôt, hein, d'ailleurs, qui est la diminution du nombre de mètres carrés par enfant. C'est-à-dire que là, le nombre de mètres carrés par enfant ça pourrait être au minimum 5 mètres carrés 50 par enfant, alors que tout le monde sait très bien que le nombre de mètres carrés par enfant, c'est ce qui est un truc hyper important parce que les enfants ont des besoins moteurs importants et parce que plus on met d'enfants tassés les uns sur les autres et plus évidemment les relations entre eux sont compliquées et plus on va avoir des morsures et des griffures, etc. Dans ces ordonnances, on a aussi des directeurs ou trices de crèches qui pourront être sans expérience professionnelle jusqu'à 40 enfants. Voilà. Et puis, ils nous ont concédé une demi-heure par mois d'analyse de la pratique en crèche. Donc, autant dire que c'est du foutage de gueule total, parce qu'une demi-heure par mois, ça ne sert absolument à rien. Alors que ça fait des années qu'on revendique d'avoir des temps de réflexion en dehors des enfants, chose qui n'existe pas en crèche.
Alors, du coup, on voit globalement vers où ça va. Mais le gouvernement trouve que ça répond à un besoin important parce qu'il y a quand même des tas de gens qui cherchent des crèches, des nounous, des gens pour garder leurs gamins et qui n'en trouvent pas.
Oui, voilà.
Et le gouvernement trouve que comme ça, bah, du coup, dans une même crèche, avec le même nombre de personnel, ça fera toujours un peu plus d'enfants de casés.
Voilà, donc merveilleux. Donc le même gouvernement qui a quand même commandé en 2019 et qui a été rendu en 2020 le fameux rapport sur les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant, qui a été fait par une commission d'experts à la tête desquels on trouve Boris Cyrulnik, qui est quand même un grand ponte de la petite enfance. Et dans ce rapport, est préconisé exactement le contraire de ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que, eux, la solution pour que les parents trouvent un mode de garde, c'est de faire un accueil de merde, en gros. C'est-à-dire avec plus d'enfants pour moins de professionnels, des professionnels moins qualifiés, dans moins de mètres carrés, si on résume un peu. Alors que le rapport des 1000 jours préconise notamment, par exemple, un ratio de 5 enfants par adulte, tous âges confondus. Là, on arrive à 6. Avec au moins 70% de personnel diplômé. Là, on est à 60 dans leurs ordonnances. Ce rapport, il préconise également l'amélioration de la formation et la valorisation des personnels encadrants dans les EAJE. Bon, bah là, on fait exactement le contraire. On va mettre moins de gens, moins bien formés. Il préconise de valoriser la rémunération des professionnels petite enfance. Alors, autant dire que la rémunération et la reconnaissance des professionnels petite enfance qui sont constitués pour une écrasante majorité de femmes, c'est rien du tout.
Quand même, pour voir le bon côté des choses, du personnel moins formé, ça veut dire que ça va coûter moins cher. Moins de mètres carrés, ça veut aussi dire que ça va coûter moins cher.
Voilà, et là, c'est un tapis rouge qu'on est en train de dérouler aux crèches privées qui sont entrées en vigueur avec le décret 2010, donc sous Sarkozy, qui avait été balancé par Nadine Morano, ce décret, qui permet donc à des gens qui n'ont jamais vu un jeune enfant de leur vie potentiellement, enfin qui connaissent absolument rien à la petite enfance, de créer un business sur l'accueil de la petite enfance. Donc maintenant, on a tout un tas de grands groupes, style Les Petits Chaperons Rouges, La Maison Bleue, Babylou, People and Baby, etc., qui accueillent les enfants dans des conditions absolument catastrophiques, puisque eux, ils mettent le moins de personnes diplômées possible, le plus d'enfants possible dans une même pièce. Et évidemment que quand on va leur permettre de les accueillir dans encore moins de mètres carrés, eh ben ça va leur rapporter encore plus de pognon. Il faut savoir que ces gens-là, en fait, c'est pas des gens qui pensent l'accueil dans une idée de qualité d'accueil, de bienveillance, de développement de l'enfant, d'éveil, etc. C'est des gens qui pensent l'accueil dans une idée de « ça va me rapporter du fric ». Donc ce sont des gestionnaires, comme toutes les micro-crèches qui fleurissent un peu partout privées, on a des gestionnaires qui se disent « ah bah tiens, je vais créer une micro-crèche, et puis si ça marche bien, bon, j'en créerai deux, puis trois, puis quatre ». Récemment, j'ai rencontré une fille qui était, on appelle ça référente, parce que dans les micro-crèches, c'est pas directrice, elle était référente de 4 micro-crèches différentes. Donc ça veut dire qu'il y a 4 micro-crèches. Elle est la seule éduque de jeunes enfants. Il n'y en a pas sur le terrain, parce que du coup, ce n'est pas obligatoire. Et puis sur le terrain, eh ben, on va avoir des CAP petite enfance. Si on a un peu de chance, il y aura une auxiliaire de puériculture qui est un peu mieux formée que les CAP petite enfance. Et puis du coup, là, ces ordonnances, c'est un tapis rouge qu'on déroule au privé.
Est-ce que dans le public de ces différentes sortes de crèches, il y a un truc de classe sociale ? Est-ce que c'est les pauvres qui mettent leurs gamins dans ces crèches privées et les autres non ? Ou comment ça se passe ?
Alors, ça dépend. Globalement, c'est plutôt l'inverse, parce que les crèches privées, tout dépend du moyen de paiement des parents. C'est-à-dire qu'elles sont quand même subventionnées en partie par la CAF, hein, comme les autres crèches. Et ça dépend de ce qu'elles ont négocié avec la CAF. C'est-à-dire que si elles payent à la PSU, qui est la prestation de service unique, qui permet un financement, enfin une participation des parents selon leurs moyens, selon leur quotient familial, elles sont tenues de respecter les tarifs de la CAF, et donc les parents vont payer selon leur quotient familial. Sauf que dans les crèches privées, ça n'existe quasiment jamais. Et du coup, elles fonctionnent à ce qu'on appelle la page, c'est-à-dire que c'est les parents vont avancer l'argent et ils seront ensuite en partie remboursés par la CAF, exactement de la même manière que s'ils embauchaient une assistante maternelle. Et là, les tarifs sont complètement libres. Donc, il y a des gens qui vont payer leur place en crèche privée à un tarif mensuel qui est supérieur à mon salaire.
Mais les gens font ça parce qu'il n'y a pas assez de place.
Bah, les gens font ça parce qu'il n'y a pas assez de place et que c'est ceux qui ont les moyens de le faire qui font ça. Oui, et après, mais effectivement...
Coup, ils mettent leurs enfants dans des crèches de merde où les enfants sont...
Ah non, alors, après, oui... Oui, alors dans les crèches privées, il y a de tout. C'est-à-dire que les petits chaperons rouges, par exemple, l'accueil est absolument catastrophique. Après, tu peux avoir People and Baby, par exemple, ils ont des crèches, des micro-crèches, où les enfants, ils vont pas être maltraités. Mais par contre, alors là, pour le coup, c'est les gens qui ont du fric qui ont accès à ça. On peut aussi rajouter quand même que les professionnels de la petite enfance sont à bout depuis longtemps. Que là, la dernière rentrée a été pire que tout, parce que en plus du sous-effectif qui est quasi permanent dans les crèches, on a tout un tas de protocoles de désinfection liés au Covid, avec bien évidemment pas de personnel supplémentaire. Donc les filles sont censées faire le ménage, la désinfection, etc. en même temps qu'elles s'occupent des enfants. Et que là, les professionnels sont vraiment à bout, et qu'on est censé travailler dans la bienveillance, la bientraitance. Alors on a une charte d'accueil de la petite enfance, on se gargarise de mots et de blabla. Et sur le terrain, on a des professionnels qui n'en peuvent plus, qui sont proches du burn-out et susceptibles de péter les plombs sur les enfants. Et on n'est pas dans la bienveillance, on est dans la maltraitance institutionnelle dans les crèches.
Info. La Convention citoyenne pour le climat, on se rappelle de ce machin créé par Macron. Macron, il avait une idée écolo dans sa vie, qui était de faire payer plus de taxes aux pauvres, mais ceux qui conduisent les diesels. Ça avait un peu foutu la merde avec les gilets jaunes, tout ça, et là, il a fait « Oh là, non, mais moi, j'y arrive pas ». Ce que je vais faire, idée géniale, en plus les Gilets jaunes réclamaient aussi plus de démocratie, et donc l'idée de la démocratie en l'occurrence, alors pour le coup là Macron il partage avec un paquet de Gilets jaunes, ça peut être à des moments de tirer des gens au hasard et d'imaginer que du coup ils sont représentatifs de quelque chose. Bon, il avait tiré des gens au hasard pour faire des trucs écolos, lui proposer des trucs écolos. Et comme ça, au moins, ça serait pas lui qui devrait en assumer la responsabilité face aux gens. Et surtout, dans l'esprit de Macron, a priori, on peut imaginer que c'était l'idée que des gens tirés au hasard, si on leur demande de faire de l'écologie, allaient d'abord faire en sorte que leur vie n'en soit pas impactée. Allaient d'abord proposer des mesures qui changeraient pas grand-chose. Malheureusement pour lui, les gens qui ont fait ce truc-là, alors sans être complètement révolutionnaire, sans proposer d'abolir le capitalisme, ce qui serait a priori une sorte d'évidence si on veut améliorer le climat.
C'est quand même une convention citoyenne, hein, donc
c'est ça.
Ces mots-là sont.
On reste dans quelque chose de relativement raisonnable, disons. Enfin, une manière d'être raisonnable. Sans aller jusque-là, ils ont quand même relativement bien fait leur boulot d'essayer de comprendre les enjeux, les trucs, les machins, et d'imaginer vraiment des choses pour en sortir. Et ils ont donc sorti ce qu'on leur demandait, 150 propositions pour, du coup, le taf, c'était réduire la production de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Ils ont sorti leur machin, Macron l'a pris, et puis bon, il avait bien précisé qu'il essaierait, il avait bien précisé que tout ce qui dans leur proposition relevait du législatif, c'est-à-dire tout ce qui serait amené à produire des lois, il le reprendrait sans filtre pour le proposer à l'Assemblée nationale et au Sénat pour en faire vraiment des lois. Il avait dit que peut-être il aurait un ou deux jokers. En réalité, quand les propositions sont sorties, il a direct posé 3 ou 4 jokers, je ne sais plus. Par exemple, eux proposaient de limiter la vitesse à 110 sur les autoroutes. Oh, monstrueux, monstrueux. Là, il n'en était pas question, ça. Macron l'a dit dans la première seconde. Mais voilà, entre-temps, tous les gens du gouvernement et de ces équipes-là, ils ont digéré, ruminé ces propositions pour leur donner un vrai aspect de projet de loi qui propose aujourd'hui, c'est bien aujourd'hui, à l'Assemblée nationale. Alors, commençons par dire là-dessus que déjà le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, affirme dans un avis qui date du 27 janvier que le projet de loi ne permettra pas d'atteindre les objectifs fixés. Le projet de loi, là on ne parle pas des propositions, on parle de ce qu'elles ont donné comme projet de loi et qui est soumis aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le Conseil national de la transition écologique a lui aussi rendu un avis dans lequel il précise, au regard de l'étude d'impact, certains membres du Conseil, donc, s'inquiète de la baisse insuffisante des émissions de gaz à effet de serre induites par cette loi et les politiques actuelles vis-à-vis de l'objectif de réduction de 40% en 2030 et du respect des budgets carbone. Et il s'en inquiète d'autant plus qu'entre-temps, l'Europe a un objectif non plus de 40%, mais bien de 55%. Du coup, aussi en 2030, alors en vrai, il faut que ça fasse 40 ou 55% de moins en 2030 que ce que c'était en 1990. Mais comme d'hab, le gouvernement n'hésite pas à fixer des objectifs à long terme tant que ça ne l'oblige pas à faire quoi que ce soit tout de suite. Alors là, bien sûr, Macron aurait pu se sentir obligé de faire quelque chose puisqu'il avait promis cette histoire de sans filtre. Ah non, mais je l'ai déjà dit avant. En fait, de sans filtre, il a quand même à peu près vidé tout le contenu des propositions de la Convention. Alors voilà, dans le projet de loi tel qu'il est, Greenpeace dénonce les jokers à répétition et autres renoncements du gouvernement qui a enterré certaines mesures fortes de la Convention citoyenne pour le climat, comme l'interdiction des publicités qui incitent à la consommation de produits polluants, ça c'était dans les trucs proposés et qui finalement dégagent. L'abandon du traité de libre-échange, le CETA, qui menace l'agriculture paysanne, ça aussi la Convention citoyenne l'avait proposé, dégagé. La taxation des dividendes climaticides pour les grandes entreprises, on va quand même pas taxer des dividendes quand on est un gouvernement ultralibéral. Le moratoire sur les nouvelles zones commerciales et les entrepôts de e-commerce, certainement pas. Ou encore l'instauration d'un impôt écologique sur la fortune. Non, mais ça, à Macron, ils lui ont demandé ça, quoi. Alors Greenpeace, toujours Greenpeace, et sur le logement, demande une obligation de rénovation des logements globales, performantes, justes et ambitieuses dès 2024. Pour lutter, nous disent-ils, contre le fléau des passoires énergétiques, il faut des moyens et de l'ambition. En ce sens, l'obligation de rénovation énergétique performante des logements était l'une des mesures les plus ambitieuses et structurantes de la Convention. Là encore, nous n'avons eu que de belles promesses, sans effet pour les familles les plus précaires qui continuent à vivre dans des logements mal isolés qui plombent leurs factures, leur santé et les objectifs de décarbonation du secteur bâtiment. Donc la Convention en fait proposait une obligation de rénover ce qu'on appelle des passoires thermiques, c'est-à-dire des logements très mal isolés, avec l'idée d'une aide de l'État, quoi. Alors finalement, dans la proposition de loi, c'est à partir de 2028. Alors pourquoi 2028? En tout cas, on est sûr que même si Macron a un deuxième quinquennat, 2028, c'est après. Donc à partir de 2028, on n'aura plus le droit de louer un logement hyper mal isolé. Alors c'est encore un truc à long terme. Et voilà. Et du coup, quand ça sera le gouvernement suivant, ben il aura, ce gouvernement suivant aura qu'à faire comme Macron quand il est arrivé, c'est-à-dire dire les objectifs écologiques fixés par le gouvernement précédent, en fait, ils sont pas tenables. Et puis faire merci, ciao, on n'aura plus rien à branler. La proposition de la convention, alors sur les déplacements, la proposition de la convention, enfin il y en avait plusieurs, mais une des propositions était d'interdire les vols en avion si on peut faire le même trajet en train en moins de 4 heures. Le gouvernement reprend la proposition, enfin plus ou moins, parce que les 4 heures sont venues 2h30. Et du coup, des trajets qu'on peut faire en moins de 2h30 en train, les faire en avion, généralement, c'est vraiment débile. Parce que de toute façon, pour aller du centre-ville où tu habites à l'aéroport, puis de l'aéroport où tu es arrivé au centre-ville où tu vas, en fait, les 2h30, tu les as déjà dépassés. Autant dire qu'en réalité, il y a 5 connexions aériennes dans toute la France qui sont concernées par cette mesure ambitieuse du gouvernement. C'est-à-dire que dalle. Mais bon, c'est vrai, on vient aussi de filer un paquet de milliards à Air France. C'est pas pour pourrir le transport aérien maintenant, même si c'est quand même vrai que l'avion est de très, très, très loin le moyen de transport le plus polluant et que c'est un moyen de transport surtout réservé aux riches. Alors rien non plus, évidemment, dans le projet de loi pour avoir des trains moins chers, nombreux, qui vont partout, que les endroits soient bien desservis, tout ça, même si par contre le train, lui, est un moyen de transport très très peu polluant. La Convention citoyenne proposait aussi d'interdire la publicité pour les véhicules très polluants, les grosses bagnoles, en gros les gros 4x4. Bon, cette proposition-là, elle est à la poubelle, d'interdire la publicité, ça c'est net. La convention proposait aussi de taxer la vente de ces mêmes véhicules. Mais, encore une fois, c'est des véhicules, ma foi, qu'on ne vend qu'aux riches, les gros SUV, vous voyez. Et comme on va quand même pas faire chier les premiers de cordée, le projet de loi change juste... Alors, pour le coup, reprend la proposition, hein, mais change un tout petit peu les seuils pour la taxation. Ça se passe en histoire de poids du véhicule. Donc la convention citoyenne avait proposé un truc qui faisait que globalement les SUV allaient être taxés, et là le gouvernement a juste un tout petit peu changé le poids à partir duquel ça serait taxé. Résultat, le nombre de véhicules, de modèles concernés devient complètement ridicule. Sur le volet alimentation, tiens, revenons à Greenpeace. Alors Greenpeace demande l'introduction de 2 menus végétariens obligatoires par semaine, ainsi que d'une option végétarienne les autres jours dans l'ensemble de la restauration collective publique et privée. Greenpeace demande aussi l'introduction de chèques alimentaires fléchés vers les personnes précaires et incitant à consommer des fruits et des légumes frais et produits localement. Alors là, vous imaginez bien que c'est pas exactement ce qu'il y a dans le projet de loi, parce que l'échec alimentaire, c'est niet. Quant au revenu végétarien pour la restauration collective, le projet de loi alors reprend la formule de l'expérimentation obligatoire qui a fait ses preuves dans les cantines ces 2 dernières années, sauf qu'au lieu qu'elle soit obligatoire, elle va être facultative. Donc là, il y a eu quelques départements où ils avaient expérimenté ce truc d'avoir une fois de temps en temps un menu végétarien, et ça, dans ces départements, c'était toutes les écoles devaient s'y tenir. Bon, maintenant, ça sera partout, mais par contre, ça sera plus obligatoire.
En fait, comme avant, quoi, où tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait avec les menus.
C'est exactement ça. Alors voilà, tout ça c'est des exemples un peu types, on pourrait continuer un moment comme ça, il y en a plein. Hein. Globalement, les membres de la commission citoyenne, on les entend un petit peu ces derniers jours dans les médias, en tout cas celles et ceux qu'on entend s'exprimer ici et là, sont quand même plutôt deg. Ils et elles ont l'impression qu'on s'est quand même un peu foutu de leur gueule. Et voilà, et maintenant on va assister au débat parlementaire sur ces propositions de loi. Alors l'un des membres de la commission dit à Ouest France qu'il avait craint un moment que l'Assemblée nationale s'éloigne trop du projet de loi qui serait proposé. Ça, c'était avant d'avoir lu le projet de loi. Donc ce membre de la convention citoyenne, une fois qu'il a lu le projet de loi, bah là maintenant il explique à Ouest France donc qu'il espère plutôt que les députés vont s'éloigner beaucoup du projet de loi pour redonner à la loi une vraie ambition. On parle quand même de députés d'une Assemblée nationale où la République En Marche est très largement majoritaire. Ça me ferait bien marrer si c'était pas aussi grave.
Et on va se faire une petite pause musicale avant de passer à la suite avec Pablo Hasél, dont on parlait tout à l'heure, qui est donc ce rappeur catalan bientôt emprisonné pour avoir critiqué la monarchie.
Mmh. fuerza y orgullo por combatir al Estado que nos oprime corrupto. Fuerza y orgullo porque desafiando a su dictadura la desnudo. Fuerza y orgullo siempre, siempre. Fuerza y orgullo. Mierda, tanta rabia me bloquea, pero fluyo por orgullo en la pelea. Por servir a lo más bonito, escoria pone la historia fea. Me enamoro del delito, de la apatía, ni con perpetua callaría lo que grito. No me sentiría vivo sin ideales, los persiguen porque saben cuánto valen. Me siento bien aportando al cambio y no cambio por nada a ser revolucionario. No me lo quitarán ni en una celda diminuta, la razón grande se expande y les preocupa. No hay otra ruta que arriesgar algo, ladra, yo sobre la palabra cabalgo. La frialdad macabra no me tornó insensible, un honor que ante su crimen mi corazón vibre. Fuerza y orgullo, fuerza y orgullo, no hay quien me venza, no huyo. Fuerza y orgullo, fuerza y orgullo, por crear chispas en lo oscuro. Fuerza y orgullo, fuerza y orgullo, no hay quien me venza, no huyo. Fuerza y orgullo, fuerza y orgullo, por crear chispas en lo oscuro. Jodida impotencia me carcomes, pero no has tragado ilusiones demasiado enormes. La pena en odio se transforma, es mi norma. Querrán que se sienta sola, pero cada persona luchadora acompañará. Solo veré hormigón, pero veo más allá. La condena será suya si esto me mejora. Si difundir la realidad va a acercar su hora. El pueblo llora y yo no oculto su llanto. Su poder es un insulto, yo solo lo canto. Lo que me empuja es tan, tan fuerte que veo el fin de las vendas, aunque no me dejen verte. No pueden alejarme ni en una cárcel lejana. Mi mente no secuestra, la respuesta trama. Ricos por el drama tropiezan con mi sonrisa, porque saldré con la entereza insumisa. Fuerza y orgullo, fuerza y orgullo, no hay quien me venza, no huyo. Fuerza y orgullo, fuerza y orgullo, por crear chispas en lo oscuro. Fuerza y orgullo, fuerza y orgullo, no hay quien me venza, no huyo. Fuerza y orgullo, fuerza y orgullo, por crear chispas en lo oscuro.
Les petits oiseaux et les ramasseurs de champignons, la vieille dame qui taille sa clôture ou un cycliste sur la route. Ils se vantent de gérer la faune des forêts françaises, mais en réalité, ils lâchent des animaux d'élevage qui parfois font de gros dégâts sur les cultures. Ils sont souvent des caricatures de beaufs fachos. Macron leur accorde tout ce qu'ils veulent parce que Macron croit qu'ils sont son lien avec les territoires. Mais ce ils sont, finissent généralement sont... par... Hein
ce sont...
Mais ils finissent généralement par énerver la plupart des habitants et habitantes des campagnes. Vous les avez reconnus, ce sont...
Les chasseurs.
Les chasseurs, exactement. Alors, une cabane de chasseurs située à Neufmanil dans les Ardennes a été détruite au début du mois de février 2021. Le maire et les chasseurs accusent les anti-chasses d'être à l'origine du sénisme. Figurez-vous qu'à côté de cette cabane, il y avait deux énormes épicéas, des arbres... vraiment balèze, quoi. Et que ces deux épicéas ont été tronçonnés de manière extrêmement professionnelle. C'est-à-dire qu'on sait que la personne qui tronçonne sait exactement où et comment ils vont tomber. Et ils sont tombés pouf, sur la cabane de chasseur, écrabouillée. Enfin, elle n'est pas vraiment écrabouillée, mais elle n'est quand même pas vraiment utilisable non plus. Au mois de janvier, c'est-à-dire quelques semaines avant, un tag anti-chasse avait été découvert sur le portail du stade de foot de la ville. Les destructions contre la chasse se multiplient. De nombreuses personnes militantes anti-chasse ou non exaspérés par le comportement des chasseurs et le laxisme des autorités à l'égard de ces derniers, ont décidé, semble-t-il, de prendre les choses en main. On a un autre exemple à Dieu-sur-Meuse. En novembre 2020, alors qu'il inspectait les bois de la commune comme il le fait régulièrement, Daniel Guillaume, président de la société de chasse de Dieu-sur-Meuse, a constaté qu'un de ses miradors avait été renversé et endommagé. Vous voyez, on voit ça une fois de temps en temps dans les forêts, des sortes de constructions un peu hautes, avec une petite cabane en haut, où le chasseur peut se mettre pour flinguer n'importe quoi, surtout pendant que ses collègues font une battue en bas, et les collègues sont censés, dans ce cas, ne pas viser aussi haut que ça, et ne pas le plomber lui. Daniel Guillaume, donc le président de la société de chasse, nous explique qu'il avait fait dévaler le mirador sur plusieurs dizaines de mètres dans les broussailles. Alors avec l'aide de quelques autres chasseurs, il a remis le mirador en place et il l'a réparé. Mais le temps qu'on regagne le chemin, un second mirador avait été renversé. Des actes qui, selon lui, sont dus à la récente inauguration d'une piste cyclable traversant leur bois et exposant les miradors à la vue des promeneurs.
Oui, pourtant, il y a bien un député qui avait dit « Ce serait bien qu'il n'y ait pas de cyclistes quand il y a des chasseurs. »
Mais oui, c'est ça. Mais ça, c'était il y a 2 ans. Et puis tiens, encore une promesse non tenue de La République En Marche. C'était un député de La République En Marche qui voulait interdire le cyclisme pendant la période de chasse. Il ne l'a pas fait, finalement.
C'est dire. On voit ce que ça donne.
En tout cas, l'autre là est très, très énervé contre cette piste cyclable. Avant, personne ne passait par là, mais depuis cette année, c'est une vraie autoroute, ajoute-t-il. Alors, pour éviter les récidives, le matériel est désormais surveillé par plusieurs caméras cachées dans les arbres. Et l'information a été publiée dans les médias locaux. Depuis, on n'a plus de problème. Mais ces actes ne sont pas les seuls à inquiéter le chasseur. Les baraques de chasse des alentours sont visitées, on se fait piquer du matériel, surtout nos bouteilles de gaz. Bon, depuis septembre, une quarantaine de dégradations matérielles ont été signalées à la Fédération de chasse. Les plus visés, ce sont les miradors et les véhicules des chasseurs, dit Sophie Baudin, qui elle est responsable de relations presse à la Fédération nationale de chasse. C'est-à-dire qu'il y avait une nana chasseuse, ils l'ont mise responsable des relations presse. C'est normal, les femmes, ça communique mieux que ça tire. Récemment, continue-t-elle, on nous a signalé 6 véhicules de chasseurs sabotés durant l'action de chasse dans le Morbihan. Les auteurs sont rarement identifiés. Les auteurs de toutes ces actions anti-chasse sont rarement identifiés. Alors attention quand même, si cette info vous inspire, la Fédération de chasse a mis en place une cellule pour faciliter le dépôt de plainte.
Canu Info.
Alors, on en parlait la semaine dernière du regain des violences racistes et anti-migrants de la population aux Canaries.
On dirait qu'on t'entend. Ah ouais, mais moi aussi.
On dirait que ça l'arsène un peu.
Ça l'arsène grave.
Alors, est-ce que là c'est mieux ? Ah non, ça ne change rien.
Ah ah !
Est-ce qu'ici ça va mieux ? Non.
Non, là on t'entend plutôt pas du tout. Non, mais non, on m'entend pourri là. Pourri. Qu'est-ce qui nous est arrivé ?
Ça fait un style quand même.
Oui, ça fait un style. Allez, balançons un petit jingle.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Du coup, on va vous parler de la mobilisation des teufeurs et des teufeuses.
Et oui, on se souvient de cette rave party en Bretagne le 31 janvier, celle qui avait soulevé une sorte de grande indignation nationale, parce que, ma foi, plein de jeunes qui dansaient dehors sur du gros son en pleine pandémie. Autant dire, en prenant... Ok. Alors c'est peut-être qu'il y a aussi un problème de casque de mon côté. Mais autant dire, en prenant plein de risques de maladies, tout ça, là là. Bon alors bien sûr, une semaine plus tôt, ici et là, quelques messes réunissaient pas mal de monde. 800 personnes, par exemple, à Guingamp. 800 personnes. Pas dehors, non. Non, 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 contrairement à la rave party. À l'intérieur de la basilique. Mais cette info n'a rien à voir, bien sûr. Alors, pour les curés, l'État n'a pas jugé utile de poursuivre qui que ce soit. Pour les teufeurs et les teufeuses, par contre, l'État a lancé les gendarmes, une enquête, des arrestations. Un des présumés organisateurs a passé quand même quelques jours, quelques semaines même en prison. Et plusieurs sont encore sous contrôle judiciaire. Mise en danger de la vie d'autrui. Et puis, facilitation de vente de drogue, tout ça, enfin, vous voyez. Mais le monde de la musique Boom Boom ne se laisse pas faire, participe activement aux manifs contre la loi Sécurité Globale et affirme sa politisation. Un communiqué de presse nous arrive qui appelle à manifester ce samedi. Et ce communiqué de presse nous explique que le 30 janvier, nous étions à nouveau plusieurs dizaines de milliers en soutien à nos camarades inculpés dans l'affaire du Nouvel An de Lieuron, victime d'une répression outrageusement excessive, ainsi que pour nous opposer aux lois qui menacent dangereusement nos libertés. Et là, on parle bien de la loi Sécurité Globale. La convergence du monde de la fête libre avec les milieux militants a rendu possible une mobilisation hors norme. Ainsi, partout en France, une fois de plus, les cortèges riches de diversité humaine et politique rayonnaient de joie et de détermination. Continuons à lutter contre un monde mortifère grâce à cette force collective. Et donc les auteurs de ce communiqué de presse nous expliquent que les 9 personnes accusées d'avoir organisé le réveillon, dénommé Mascarade, ces 9 personnes sont toujours sous contrôle judiciaire avec des restrictions de mouvement et d'interaction très contraignantes. Et puis ils vivent aussi avec une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, puisque donc un jour ou l'autre ils seront jugés et le procureur leur fait miroiter la possibilité de lourdes peines de prison, c'est-à-dire 10 ans de prison je crois. Isolés, contrôlés, immobilisés et terrorisés, c'est une peine qui ne dit pas son nom puisqu'ils ne sont pas encore condamnés à quoi que ce soit. Mais ce contrôle judiciaire en soi est une peine. Alors cette répression ne s'arrête pas aux 9 inculpés puisque par exemple plein de matériel a été saisi. Des enceintes, des amplis, la lumière, structure, câble, platine, même les vinyles et les camions. De plus, quand on analyse les charges qui pèsent sur les inculpés, on s'aperçoit que les plus lourdes d'entre elles sont inapplicables ou ont déjà fait l'objet à maintes reprises de jurisprudence qui font qu'en fait les gens sont pas condamnés. Le procureur, bien sûr, est au courant de tout ça et il était au courant quand il a lancé le machin. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, ça veut dire que l'instruction, le but de l'instruction n'est pas réellement de trouver des responsables, ni même réellement, sans doute au final, de condamner qui que ce soit, mais bien de terroriser la jeunesse, de lui enlever tous les moyens logistiques et humains de contester les politiques actuelles et d'empêcher ainsi toute alternative culturelle et sociale. En gros, tant que les gens sont sous contrôle judiciaire, et ce contrôle judiciaire hyper lourd et tout ça, eh ben c'est sûr qu'ils risquent quand même pas de se bouger beaucoup, et que ça fait peur à tout le monde. C'est-à-dire aux inculpés, mais aussi à tous ceux qui ne sont pas inculpés. Alors comme ça n'a pas l'air de suffire, les responsables politiques tentent aussi de faire taire la contestation en usant arbitrairement de leur pouvoir. Et ça, sur l'organisation des manifs. À Rennes, pour la deuxième fois consécutive, le rassemblement de la manif n'a pas pu avoir lieu, encerclé par de nombreuses brigades de maintien de l'ordre et qui accusent les manifestants de vouloir organiser une rave party. C'est-à-dire que à la manif, il y a des camions sono, les camions sono passent de la musique techno, mais comme ce qui a été demandé à la préfecture, c'est une autorisation pour une manif, les flics disent ça, c'est pas une manif, c'est une rave party. Il y a pas moyen. À Paris, plusieurs chars, et pareil, ça s'est passé plusieurs fois, ont été empêchés de rejoindre la manifestation. C'est-à-dire que, en fait, un premier samedi, la manifestation contre la loi Sécurité Globale, là, les camions sono sont arrivés pour se joindre à la manif. Et là, le préfet, le très fameux préfet l'allemand, a dit « Ah mais non, ça, c'est pas une manif, c'est une rave party, c'est niet. » Résultat, le samedi suivant, les toffeurs ont déclaré leur camion et leur immatriculation à l'avance à la préfecture. Mais ça n'a rien changé, en fait, ils ont quand même été empêchés de rejoindre. À Fréjus, c'est la préfecture avait dit OK pour la manif, mais la mairie, Fréjus, on se rappelle, extrême droite, a pris un arrêté municipal d'interdiction la veille au soir. Alors, la veille au soir, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est très difficile d'organiser un recours judiciaire dans un délai aussi court. À Lorient, à Dijon, à Nice et à Lille, c'est des arrêtés préfectoraux qui sont venus interdire les rassemblements ou la diffusion de musique amplifiée dans l'espace public. À Dijon, il y avait aussi eu un arrêté préfectoral, mais là, la CGT et la Ligue des droits de l'homme ont déposé un recours devant le tribunal et le tribunal leur a donné raison, bizarrement. La manifestation a donc pu se dérouler normalement. Et les auteurs du communiqué de presse disent qu'il s'agit là d'un premier jugement qui préfigure d'une longue série. Et ils expliquent qu'il leur a fallu, un peu de temps pour contacter des avocats de confiance à travers toute la France en disant « ce n'est pas notre terrain de jeu habituel, les rapports avec les avocats ». Effectivement. Mais ils sont prêts maintenant et ils contesteront en justice et dans la rue tout arrêté qui va à l'encontre des droits de manifester, de créer et de diffuser. Il dénonce aussi le mépris des autorités et d'une partie des médias envers cette jeunesse qui se voit régulièrement dénier le titre de manifestant revendicatif. C'est-à-dire que les gens, sous prétexte qu'ils ont des gros sons, ça ne serait pas des vrais manifestants. Alors nous qui, à Radio Canu, avons quand même passé énormément de temps depuis des années et des années à dire qu'il ne fallait pas désolidariser les casseurs des manifestants, et du coup à répéter, il n'y a pas les bons et les mauvais manifestants, les gens qui sont dans une manif, ils manifestent. Et bien évidemment que c'est un truc qu'on peut comprendre. Ce souci et le fait d'être deg que une partie des médias trouve que s'ils sont là à danser pendant la manif, c'est pas vraiment une manif, et ben c'est dégueulasse pareil. C'est encore une manière en tout cas de diviser les manifestants entre ceux qui sont vraiment là pour manifester et ceux qui sont là pour autre chose. Et voilà, et les auteurs du communiqué exigent d'une part l'arrêt des poursuites démesurées contre les organisatrices et organisateurs du Nouvel An. Ensuite, la fin des contrôles judiciaires des 9 personnes mises en examen. La restitution totale et immédiate du matériel qui d'ailleurs, disent-ils, n'a pas servi à la rave party en question. C'est vraiment que les flics ont fait des descentes dans les milieux des toughers et ont piqué du matériel. Ils exigent encore le droit à des alternatives sociales et culturelles et l'abrogation des lois dites sécuritaires. Enfin, dites sécuritaires, des lois sécuritaires en tout cas, et le respect des libertés individuelles. Et donc, eh ben, ma foi, qu'est-ce qu'ils disent d'autre ? Ils disent que la prochaine manif, c'est le 13 février, c'est-à-dire ce samedi. Rendez-vous le 13 février dans toutes les rues.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Info.
Alors, on en parlait la semaine dernière du regain des violences racistes et anti-migrants de la population aux Canaries entre manifestations, je cite, face à l'invasion ou agression de migrants, menaces, etc. Alors, en plus de ce contexte local particulièrement peu accueillant, les migrants actuellement aux Canaries redoutent une expulsion et demandent leur transfert vers le continent. Alors, leur désespoir se fait de plus en plus concret. Selon le quotidien espagnol El País, un jeune Marocain s'est récemment infligé plusieurs coups de rasoir à la jambe, un autre s'est entaillé le ventre et un troisième a tenté de sauter du haut d'un bâtiment avant d'en être empêché. Ces actes désespérés n'apparaissent plus si marginaux dans l'archipel, tant la situation est compliquée sur place pour les demandeurs d'asile. En raison de Covid-19, les transferts vers le continent qui concernent uniquement les personnes considérées comme vulnérables sont devenus rarissimes. Les migrants arrivés en très grand nombre ces derniers mois n'ont d'autre option que de s'entasser dans des hébergements réquisitionnés à la hâte par les autorités, des hôtels en malles de touristes, des baraques militaires, des campements sommaires où la pluie et la boue entrent dans les tentes. Ils sont laissés dans l'incertitude et beaucoup craignent une expulsion. Alors, dans ce contexte, des manifestations de migrants ont eu lieu la semaine dernière, notamment à Grande Canarie. Et en réclamant un transfert vers le continent, certains ont brandi des pancartes indiquant l'Europe ou la mort. Samedi 6 février, environ 450 Marocains logés dans un campement installé dans une école fermée ont par ailleurs annoncé entamer une grève de la faim. Ils sollicitent l'aide de leurs autorités consulaires pour accélérer les procédures. Quelques jours auparavant, d'autres exilés hébergés dans un centre militaire avaient protesté de la même manière contre les conditions de vie et dénoncé notamment le manque d'eau chaude. Alors depuis, ils ont été complètement inondés par une remontée d'eau dans leurs égouts. Tout ça fait suite aux annonces des autorités espagnoles qui ont lancé un plan d'urgence visant à créer pas moins de 7000 places d'hébergement temporaire aux Canaries. C'est évidemment complètement insuffisant puisqu'il y a eu plus de 20 000 entrées aux Canaries de migrants sur l'année. Et le ministre de l'Intérieur qui avait aussi annoncé vouloir augmenter, donc ministre de l'Intérieur espagnol, qui avait annoncé vouloir augmenter le nombre d'expulsions. Et ça semble sérieux puisque d'après le journal El País, un avion serait affrété pour le Sénégal ce mois-ci.
Canu Info. Du mercredi.
Et alors, on va continuer à parler des multinationales comme on en parlait tout à l'heure, puisqu'hier matin, le PDG de Total a annoncé les résultats de Total pour 2020. Malgré des pertes records de 7 milliards d'euros, le montant des dividendes sera maintenu. Voilà, donc Patrick Pouyanné, c'est le nom du PDG, il a décidé de maintenir une stratégie de réduction des coûts et de diminution des investissements. C'est cette ligne qui a permis à Total, en pleine crise sanitaire, de faire 9,3 millions d'économies dans le cadre d'un plan d'économie lancé en mars et qui comprend notamment le gel des embauches. Malgré ses promesses d'embauche de jeunes, c'est un plan plus drastique encore qu'il prévoit, puisque c'est 500 millions de dollars d'économies supplémentaires qu'il envisage pour l'année 2021. Un objectif qui passe par exemple par la reconversion de l'usine de la raffinerie de Grandpuits en une usine de bioplastique et de biocarburant qui doublerait le rendement de la raffinerie et supprimerait au passage 700 emplois. Patrick Pouyanné affirme sans sourciller que, je cite, « nous ne faisons pas dépendre nos dividendes des cours du pétrole ». Alors un code moral généreux qui oublie un peu trop souvent d'appliquer à ses salariés. Au moment même où Pouyanné annonçait les résultats du groupe et le maintien des dividendes, il y avait des centaines de grévistes militants et élus devant le siège de Total à La Défense à partir de 10h mardi pour réaffirmer leur soutien aux raffineurs et raffineuses de Grandpuits qui sont donc en grève. Alors ça fait un mois que la grève tient à Grandpuits pour lutter contre la suppression d'emplois liés à l'arrêt des activités de raffinage en une reconversion dite verte, donc je disais tout à l'heure, une production d'agrocarburants et recyclage de plastique. Un projet qui se traduit par la suppression de 150 emplois sur les 400 que compte Grandpuits. Avec les sous-traitants, les grévistes estiment plutôt que ce serait 700 emplois qui disparaîtraient. La direction, elle, prétend qu'il n'y aurait pas de licenciement, met en avant les départs en pré-retraite, des mobilités vers d'autres raffineries. Alors, elles sont distantes de plusieurs centaines de kilomètres, mais ce n'est pas un problème, puisque ils estiment que la plupart des salariés qui ont leur vie dans la région et qui ne voudraient pas la quitter sont forcément d'accord. Alors, mardi, à l'occasion de cette mobilisation, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles les ont, par exemple, rejoints. Et puis des élus, des militants, et puis de nombreuses associations écologistes aussi, Greenpeace, les Amis de la Terre ou ANV COP21, qui ont réussi à marcher de concert avec les raffineurs en grève, arguant que fermer ici une raffinerie, c'est finalement en ouvrir une autre dans un pays sous-développé aux normes environnementales et sociales moins strictes.
Canu Info.
Et ben voilà, c'est 19h58 et c'est l'heure de vous laisser avec certainement la musique des fameuses, des légendaires bandes continues de Radio Canu, puisque visiblement l'émission Idées Noires n'est pas là. Depuis le couvre-feu, on les a pas tellement vus finalement. Quoi d'autre ? Ben nous, peut-être on serait pas là mercredi prochain.
Alors bonne soirée.
Alors, bonne soirée, puis peut-être plutôt à dans 15 jours.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
C'est le Canu Info, c'est le Canu Info, c'est le Canu Info.
Radio.